Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Cri d'alarme, avertissement sévère, scénario noir, électrochoc, c'est ainsi qu'on peut résumer le rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rapport rendu public il y a quelques jours à propos du réchauffement climatique sur notre planète et ses conséquences. Les experts font des prévisions inquiétantes. D'ici à 2100, la température moyenne de la Terre pourrait grimper de 4,8 degrés. Le niveau des océans pourrait monter de près d'un mètre. Tout cela, bien sûr, est au conditionnel. Cela dépendra en premier lieu des quantités de gaz à effet de serre qui seront émises dans l'atmosphère ces prochaines décennies. Nous sommes concernés, mais aussi, bien sûr, les générations à venir. Vous voulez en savoir plus sur les travaux de ces experts du GIEC ? Êtes-vous inquiet ? Quelles conséquences si nous ne faisons rien, nous, les simples citoyens ou les gouvernements ? Quelles initiatives faut-il préparer pour lutter contre les dérèglements climatiques ? Ou alors, faites-vous partie des climato-sceptiques, ceux qui contestent la réalité du réchauffement ? Sur tout cela, ligne ouverte pour vous au téléphone, le standard du téléphone sonne, le site de l'émission et bien sûr le compte Twitter Telson, nos invités, deux experts. Laurent Bopp, il est directeur de recherche au CNRS et c'est un des auteurs du rapport du GIEC. Et puis en duplex dans les studios de nos amis de France Bleu Toulouse, Serge Planton qui est climatologue à Météo France.
Pierre Veil sur France Inter.
Premier appel, Lucie, bonsoir. Lucie, vous êtes dans la Creuse, c'est ça ?
Oui, bonsoir, oui, je suis dans la Creuse. Alors, je voulais apporter un témoignage. Donc, j'ai moi-même travaillé directement en lien avec cette question du changement climatique, puisque je travaillais sur un plan climat territorial, voilà, oui. dans une collectivité. Je ne dirai pas le nom. Mmh. J'ai constaté moi-même en fait qu'il y a une incompatibilité entre des exigences politiques et des échéances politiques qui sont souvent à court terme et des mesures qui doivent être prises et qui sont sur du long terme et qui sont parfois internationales aussi. Donc,
mais Lucie, donnez-moi des exemples de ces incompatibilités.
Eh ben, si vous voulez, un élu, il est élu pour 4 ans, pour 5 ans. Donc, et son objectif, en général, c'est d'être réélu. Oui. Donc, il va fonctionner sur ce mode-là pour conserver le pouvoir. Et donc, bien souvent, des mesures qui doivent être prises et qui demandent une énergie importante et qui demandent aussi de penser au bien commun avant de penser à garder le pouvoir.
Quel genre de mesures ? Lucie, pour être concret, quel genre de mesures qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique ?
Alors, les mesures, on les connaît tous, je veux dire, il ne faut pas avoir l'air de tomber des nues. Ça fait 30 ans qu'on parle de changement climatique, on connaît toutes les mesures. C'est aider, soutenir plus l'agriculture biologique et pas l'agriculture conventionnelle comme on le fait actuellement. C'est isoler massivement tous les logements. C'est arrêter de donner toutes les subventions publiques au nucléaire. Qu'il soit dit en passant, alors il faudrait arrêter de dire aussi que le nucléaire, parce qu'il n'émet pas de CO2, soi-disant, est climato-compatible, alors que oui. C'est faux. Voilà, il faudrait vraiment des décisions nettes et claires pour aider, pour aller dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Et actuellement, il y a des pressions et peut-être des lobbies aussi qui font que voilà, il y a pas de prise de position concrète.
Donc pour vous, vous êtes plutôt pessimiste, on ne fera rien de vraiment important ?
Alors, je suis pessimiste par rapport aux politiques, si je puis dire, mais par contre, je suis optimiste par rapport aux citoyens. Et donc, je pense qu'au niveau local, les gens peuvent s'organiser, et c'est déjà le cas, on le voit vraiment partout, il y a des initiatives qui fleurissent un peu partout, les gens commencent à s'organiser, parce qu'ils ont conscience, justement, de ce qu'on leur dit depuis 30 ans, que voilà, la maison est en train de brûler. Pour reprendre une expression de Jacques Chirac.
Merci, voilà. Oui. Merci Lucie de nous avoir appelé, d'avoir témoigné sur ces réflexions de Lucie. Laurent Bopp, je rappelle, vous êtes directeur de recherche au CNRS et un des auteurs de ce rapport du GIEC.
Oui, je crois que notre auditrice en fait pose le doigt sur un problème qu'on ressent nous tous. Le climat, c'est pas la météo, c'est pas le temps qu'il va faire l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est quelque chose qu'on regarde sur plusieurs décennies, sur souvent 20 ou 30 ans. Et donc on a un vrai problème d'incompatibilité entre les échelles de temps politiques, des décisions à prendre rapidement, comme le dit notre auditrice, des politiques qui veulent peut-être être réélues en quelques années, et puis les conséquences de nos actes qui vont se faire ressentir que dans plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et donc on a ce vrai problème d'incompatibilité d'échelle de temps entre l'échelle du climat et l'échelle de la décision politique.
On a reçu ce courriel de Christophe dans le Nord-Pas-de-Calais. Il nous a écrit, voilà, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut une vision et des projets sur le long terme. Il suffit de faire des efforts simples, mais qui doivent être imposés par le gouvernement. Par exemple, on peut penser à l'abaissement des vitesses sur les routes, l'interdiction du transport aérien si une ligne de train existe, la limitation du chauffage à 19 degrés, je vous lis ce qu'a écrit Christophe, chauffage 19 degrés, de la clim à 26 degrés dans tous les bâtiments, et j'en passe, ces petites mesures ne changeront pas notre confort de vie, mais l'avenir de la planète certainement. Laurent Bopp ?
Oui, évidemment, il y a beaucoup d'idées, tant mieux, il y a beaucoup d'idées pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que dit finalement le nouveau rapport du GIEC, c'est que pour y arriver, pour maintenir le réchauffement de la planète à 2 degrés, il va falloir réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, au cours des prochaines années. Et il faut s'y mettre très vite pour essayer de poursuivre cette trajectoire ou de limiter le réchauffement à 2 degrés. Il faut réduire dès maintenant, dès 2020, il faut commencer à inverser cette courbe des émissions de CO2. Et donc, toutes les idées sont les bienvenues et mon impression, c'est qu'on aura besoin à la fois de décisions gouvernementale, politique, internationale, et puis d'actions locales, régionales, par chacun des citoyens.
Simon, à Nogent-sur-Seine, il dit « Décrivez-nous la panoplie des mesures là qui permettraient au niveau des États et de chaque particulier de réduire ce réchauffement climatique. » Ah, voilà, vaste programme. Sur ce point, Laurent Bopp.
Alors sur ce point, voilà. Peut-être pour revenir un peu sur ce que c'est que le GIEC et ce que c'est que le rapport qui vient de sortir. En fait, c'est le premier volume du rapport du GIEC. Et ce premier volume, il concerne les éléments physiques du changement climatique. Mmh. Donc Serge Planton et moi-même, on est climatologues, spécialistes du climat. On n'est pas économistes et on n'est pas spécialistes des différents secteurs d'activité et de la façon dont ces secteurs d'activité émettent du CO2. Et ce qu'on attend finalement, ce sont les deuxième et troisième volumes surtout du rapport du GIEC qui vont sortir en avril ou mars-avril prochain et qui vont être des volumes justement où les spécialistes, les économistes, les spécialistes des différents secteurs d'activité vont proposer des pistes aux politiques pour peut-être parvenir à limiter le réchauffement, à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, vous connaissez quand même mieux le sujet que moi, certainement mieux le sujet que Simon. Là, on n'avait pas quelques exemples de ce qui serait, selon vous, efficace, là, tout de suite, dans les quelques années, pour réduire ce réchauffement climatique qui annonce des catastrophes.
Alors, pour être rationnel, finalement, il faut regarder les émissions de CO2 en France et essayer de regarder comment elles sont réparties entre les différents secteurs d'activité. Ça nous donne des idées sur les secteurs d'activité où peut-être le gouvernement peut agir, ou alors localement on peut agir. Et en France, finalement, le premier secteur d'activité qui émet du CO2, c'est le transport. Et donc c'est à peu près 25-30% du CO2 émis en France, c'est les activités liées au transport, et principalement la route. Un des auditeurs ou un de vos des personnes qui a envoyé un email parlait de limiter la vitesse sur autoroute, évidemment. Ouais. Ça pourrait jouer sur les émissions de CO2 liées à l'activité du transport.
Alors, on a aussi ce commentaire de Jean-Vincent à Champigny. Il dit, très franchement, vous imaginez un accord mondial de réduction des émissions de CO2 liant tous les pays de la planète? C'est pas possible. Les États sont trop égoïstes. Il y a trop d'intérêts industriels. Cela ne se fera jamais.
Oui. Alors, on peut parler de la conférence des parties qui va avoir lieu en 2015. C'est là que les gouvernements ont envie, en tout cas certains, je l'espère, ont envie de signer un nouvel accord, un accord post-Kyoto finalement, qui pourrait lier tous les États sur les émissions.
Ça sera à Paris.
Ça sera à Paris, organisé par le gouvernement français. Et en tout cas, ces derniers jours, on a senti, et ces derniers mois, en tout cas, on a senti une volonté du gouvernement français d'organiser cette conférence des parties et d'essayer d'obtenir un accord. Évidemment, ça va être difficile parce qu'il y a des lobbies, il y a des intérêts divergents, les différents pays du monde, certains pourrait même bénéficier, pourquoi pas, du changement climatique dans certaines régions du monde. Et donc c'est difficile de mettre tout le monde autour de la table avec des intérêts si divergents. Mais il n'y a pas le choix si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, c'était l'objectif de Copenhague, il faut réduire les émissions de CO2, il n'y a pas d'autre solution.
Justement, vous parlez de la conférence de Copenhague en 2009 qui a été un échec redoutable. Des grandes paroles, des grandes déclarations et puis rien.
Oui, il faut du temps.
Oui.
Il faut du temps et espérons qu'en 2015, on fera mieux, même beaucoup mieux qu'à Copenhague.
Dans les studios de France Bleu Toulouse, intervention de Serge Planton, climatologue à Météo France. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Sur cette question des solutions, c'est vrai qu'il y a, il y a une multiplicité de solutions possibles. Ça se décline à l'échelle de l'individu, à l'échelle des collectivités locales et évidemment à l'échelle des gouvernements. Donc ça a déjà été souligné. Donc sur l'aspect international, le véritable enjeu, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va décider pour l'après 2020. Et donc ça, c'est la conférence de Paris. Enfin, même si la décision n'est pas encore prise, elle est en voie de l'être. Elle devrait l'être donc à la prochaine conférence des partis qui a lieu à Varsovie au mois de novembre prochain. En tout cas, donc un des enjeux, c'est effectivement de décider ce que les différents gouvernements vont faire après 2020. Il y a déjà quand même cet engagement, mais qui n'engage pas vraiment grand monde encore pour l'instant, tant que les décisions ne sont pas vraiment prises, de ne pas réchauffer la planète de plus de 2 degrés, parce qu'on considère qu'il y a des seuils qui pourraient être franchis, des seuils dangereux, en fait, pour nos sociétés. Mais pour l'instant, on reste encore dans le déclaratif, et il va falloir, à cette conférence, prendre des décisions, et surtout, un des enjeux, essayer d'impliquer les pays émergents, donc les pays qui n'étaient pas dans le protocole de Kyoto, puisque seuls les pays industrialisés, les pays de l'OCDE et les pays en transition économique, les pays de l'Est, essentiellement d'Europe de l'Est, étaient impliqués par les accords de Kyoto. Et donc l'enjeu, ce sera bien évidemment d'avoir un accord qui engage la Chine, qui engage l'Inde, qui engage tous ces pays qui sont, en tout cas pour la Chine, parmi maintenant les plus forts émetteurs de carbone.
Et vous avez le sentiment, Serge Planton, que ces pays, notamment la Chine, ces pays ne sont pas vraiment préoccupés par les dangers du réchauffement climatique. Il n'y a pas encore là-bas dans ces pays une prise de conscience de ce qui peut arriver.
Oui, s'il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience bon, qui est liée un petit peu aussi aux conséquences indirectes de la combustion du charbon qui produit une très forte pollution atmosphérique, mais il y a aussi une prise de conscience sur les effets potentiels des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, et en particulier enfin quand on rencontre nos homologues chinois qui travaillent un petit peu sur ces questions, et dans le rapport du GIEC qui vient d'être publié, plusieurs équipes chinoises ont contribué à l'étude du climat futur. Donc quand on les rencontre, ils se disent quand même préoccupés, en particulier par ce que pourrait devenir pour leur pays la mousson qui intéresse le sud-est de leur pays. Est-ce que la mousson pourrait devenir plus pluvieuse et donc peut-être occasionner des catastrophes naturelles? Est-ce que au contraire cette saison de mousson pourrait se raccourcir? Donc c'est des sujets qui les préoccupent parce qu'ils sont aussi sensibles aux conséquences des changements climatiques.
Mais on le sait, hein, ces pays émergents, ils sont en pleine croissance, en développement économique, industriel. Alors s'ils doivent s'engager à moins polluer, à moins dégager de gaz à effet de serre, ça peut signifier pour eux qu'ils doivent restreindre, freiner leur développement économique. C'est pas là le problème principal, Serge Planton?
Oui, bien sûr, c'est un problème dans la mesure où on a pu constater que depuis 2006, en fait, la Chine a dépassé les émissions des États-Unis, pas évidemment par habitant. Et encore, il y a encore un facteur, plus d'un facteur 2 entre les émissions individuelles d'un habitant de la Chine et par rapport à un habitant des États-Unis. Mais par contre, effectivement, on a vu que malgré d'ailleurs la crise économique, les émissions ont continué à augmenter à l'échelle mondiale, principalement d'ailleurs du fait de ces émissions en Chine. Mais pour autant, on peut penser qu'ils font aussi des efforts du côté des énergies renouvelables. Bon, c'est certainement beaucoup ont entendu parler de l'effort qu'avait fait la Chine dans le développement du solaire, notamment, et avec d'ailleurs parfois des effets un petit peu négatifs sur les entreprises. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils jouent un petit peu sur les deux tableaux, je dirais. Ils ne freinent pas certainement leur développement économique, mais ils réfléchissent aussi à l'avenir.
Au standard, Thierry, à Paris. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir, c'est moi qui vous remercie.
On vous écoute.
Alors, moi je vais quand même taper un peu fort. C'est-à-dire que je crois que l'écologie est incompatible à peu près avec tous nos modes de pensée. Et je vais commencer par la morale. Il est considéré comme gentil de faire des cadeaux à droite à gauche. Tout cadeau finit à la poubelle. Il est considéré comme poli d'être présentable. On se change de chemise tous les jours.
Oui.
La fabrication des chemises en coton, ça a séché la mer d'Aral. Il est considéré comme poli d'en laisser un peu dans l'assiette pour montrer qu'on a assez mangé. Toujours on privilégie la qualité à la quantité. Hein. Il est considéré comme aimable d'accueillir ses proches dans un canapé tout neuf en tech, par exemple.
Bon. Thierry, mais où voulez-vous en venir ?
Où je veux en venir, oui. C'est que on cherche des solutions pour sortir de ce rythme infernal de la destruction de la planète. Et moi, j'affirme malheureusement que tout dans nos modes de pensée moraux, politiques, comme économiques, surtout économiques bien sûr, on est voué à continuer à détruire la planète.
Bon, alors, Thierry, alors, sans faire trop long, comment on fait ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Il faut arrêter les usines ? On ne produit plus rien ?
Il faut arrêter et renoncer aux deux conquêtes majeures du XXe siècle, qui sont la vitesse et l'autonomie. Louis XIV, qui était quand même un type assez puissant, il ne faisait pas Paris-Nice en deux heures. Et à la vitesse d'un piéton, rien ne pollue. Bon. Il faut renoncer aussi à l'autonomie, parce que faire 10 œufs durs, ça ne consomme pas 10 fois plus d'énergie que pour en faire un seul. Il faut renoncer à certaines grandes conquêtes du XXe siècle et remettre en cause nos systèmes moraux, politiques, voire même religieux.
Merci Thierry de nous avoir appelés. Laurent Bopp, vous êtes un des auteurs de ce rapport du GIEC. À travers les propos de Thierry, peut-être un peu excessif, est-ce qu'on peut dire que si on veut lutter contre ce réchauffement climatique, il faudrait qu'on change complètement notre mode de vie ? Et peut-être que ça inquiète les Français et les habitants de la planète.
Oui, c'est normal que ça inquiète les habitants, les citoyens, et que ça soit compliqué pour les gouvernements. Mais plutôt peut-être que ces discours négatifs, une façon aussi d'aborder le problème, c'est de regarder dans le passé et de regarder peut-être des actions qui ont marché pour certains problèmes environnementaux. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va marcher aussi facilement pour celui-là, mais si on regarde le trou d'ozone dont tout le monde avait entendu parler, vous rappelez ce trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique qui allait causer de graves problèmes, un rayonnement ultraviolet important, et il fallait absolument lutter contre ce trou d'ozone. Il y a eu une conférence des pays en 1987 à Montréal. Les scientifiques avaient travaillé sur les substances anthropiques émises par l'homme qui détruisaient l'ozone stratosphérique dans la haute atmosphère. Et finalement, en 1987, on a pu se mettre d'accord, les pays ont pu se mettre d'accord pour interdire les émissions de ces substances. Et ça a permis de limiter, ou ça va permettre de limiter dans le temps l'évolution de ce trou d'ozone qui va finir, peut-être, dans quelques dizaines d'années par se refermer. Donc là, on a un problème global qui était lié à des émissions dans beaucoup de pays du monde, des pays qui se mettent autour d'une table, des scientifiques qui travaillent et qui proposent des solutions et une solution au problème. Alors évidemment, le changement climatique, c'est autre chose, parce que les produits ou les substances incriminées dans le cas de la destruction de l'ozone, c'était quelques substances, quelques usines qui produisaient ces substances, et on avait des substances qui pouvaient remplacer ces CFC. Et pour le changement climatique, c'est plus compliqué. Le CO2, tout le monde émet du CO2, tout le monde utilise une voiture, beaucoup de gens utilisent une voiture. Donc c'est plus difficile, évidemment, mais on a dans le passé des exemples où scientifiques, politiques, citoyens, on a pu trouver des solutions. Et donc c'est plutôt de ça qu'on peut
faire. Alors ça veut dire que pour émettre moins de CO2, il faudrait peut-être avoir une vie plus austère, renoncer à certaines formes de confort.
Pourquoi pas ?
Ouais.
Moi, je suis toujours étonné en hiver quand on mange des fruits qui viennent, je sais pas, de l'hémisphère sud, de les payer pas beaucoup plus cher que le fruit qui vient d'à côté de chez moi pendant la saison de où ce fruit est mûr en France. A priori, j'imagine que le coût du trajet, amener ce fruit jusqu'en France, devrait peut-être être prohibitif. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a d'autres façons de consommer, et cet auditeur, peut-être excessif, a sûrement raison. dans une certaine mesure.
À l'instant, ce courriel d'Antoine sur la boîte mail du téléphone sonne. Il nous écrit « La planète se réchauffe » et on apprend que le Qatar, pour les Jeux Olympiques, il dit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, hein, de 2022, va investir plus de 35 milliards d'euros sur la clim pour équiper une vingtaine de stades pour cette Coupe du Monde de football. C'est triste à dire, mais à quoi bon se battre dans un tel monde avec de telles situations ?
Exactement.
Laurent Bopp.
Exactement.
Oui.
Peut-être déplacer la Coupe du Monde pendant l'hiver, mais il me semble que c'est discuté aujourd'hui.
Françoise est en Alsace, dans le Haut-Rhin. Bonsoir Françoise, merci d'être avec nous, d'écouter l'émission et d'y participer.
Oui, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'entendre vos arguments. Mais en fait, moi je suis très étonnée qu'on oublie le soleil. Il y a des explosions solaires qui ont une grande influence sur le climat. Pourquoi est-ce qu'on ne prend jamais en compte ce paramètre ? Et finalement, on culpabilise aussi les gens d'une façon, des fois, un petit peu intrusive. Voilà ma question.
Pour vous répondre, juste un point, Françoise, lorsque vous dites cela, ça veut dire que les rapports du GIEC, vous êtes un peu réservés, vous faites partie des climato-sceptiques ?
Voilà, je pense qu'on nous culpabilise et que le soleil, il y a des phases de réchauffement de la Terre qu'il faut accepter. Et puis après, il y aura une phase de refroidissement. En ce moment, le soleil nous garde de ses rayons, on s'en rend compte. Hein. Par exemple, cet été, on s'est aperçu que les gens bronzaient beaucoup plus vite.
Mm-hmm.
Donc, ça réchauffe forcément aussi l'atmosphère. Donc, l'humanité peut faire attention, mais on a bon dos aussi. Voilà.
Réaction à Toulouse, dans les studios de nos amis de France Bleu. Serge Planton, climatologue.
Alors bien sûr, le soleil est une des sources principales de variabilité du climat et effectivement c'est un des facteurs d'évolution du climat mais qu'on va appeler un facteur naturel. Mm-hmm. De la même façon que les volcans peuvent aussi refroidir le climat jusqu'à quelques années après une éruption volcanique majeure. Ce sont des facteurs naturels et il y a donc des facteurs qui sont eux d'origine humaine. On a parlé déjà des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi en fait la pollution atmosphérique, les particules qui sont injectées ou produites dans l'atmosphère du fait des activités humaines qui ont un effet refroidissant sur le climat. Mais tous ces éléments, justement, tous ces facteurs ont été analysés et une des phrases clés du rapport du GIEC qui vient de paraître, c'est que l'influence des activités humaines sur le système climatique apparaît clairement et qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine est la cause dominante du réchauffement qui a été observé depuis le milieu du XXe siècle. Et pour arriver à cette conclusion, il a fallu justement regarder quelle était l'influence solaire. Et elle est évaluée sur la période des 60 dernières années à seulement une variation de la température entre moins 0,1 degré et plus 0,1 degré, alors que la température a évolué de 0,6 degré. Et sur ces 0,6 degrés, justement, on retrouve essentiellement les facteurs liés aux activités humaines, puisqu'il y en a 0,9 qui sont liés à l'augmentation des gaz à effet de serre, et un refroidissement relatif de 0,3 qui est lié à l'augmentation de la pollution atmosphérique. Et on retrouve avec le 0,9 moins 0,3, on retrouve les 0,6. C'est après analyse qu'on arrive à ces conclusions.
Des questions, des courriels sur le site de l'émission. Je vous signale que France Inter est accompagnée aujourd'hui par Pétillon, qui illustre les émissions de la journée avec ses dessins. Alors allez sur le site du téléphone sonne et vous verrez ce qu'il a imaginé, Pétillon, à propos de ce rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Allez, je vous décris son dessin qui est superbe. Hein. On voit une pyramide très haute composée de rapports empilés. Et puis il y a un expert qui dit le niveau des rapports atteint un seuil inquiétant. Voilà, c'est Pétillon aujourd'hui notre invité et il dessine les émissions de France Inter. Un courrier de Michel à Beauvais, question très directe. Hein. Quelle ville serait engloutie si les eaux de la mer montent d'un mètre dans les 70 prochaines années ? Laurent Bopp.
Alors quelle ville ? Question difficile. Ouais. Pour moi, je ne suis pas spécialiste des villes côtières, mais évidemment on peut imaginer que toutes les grandes villes côtières qui sont situées à peu près au niveau de la mer aujourd'hui pourraient souffrir d'une augmentation du niveau des mers. Si on parle d'un mètre, évidemment ça fait une grande partie de la population mondiale qui serait concernée par cette augmentation du niveau des mers. On peut aussi faire la différence entre les pays développés qui peut-être seront capables de lutter contre une augmentation du niveau des mers en montant le niveau des digues, en montant les protections contre l'augmentation du niveau des mers. On peut parler des Pays-Bas par exemple. et des pays en voie de développement où ça va être beaucoup plus difficile de lutter contre le niveau des mers. Donc peut-être plus d'inquiétude pour les grandes villes des pays en voie de développement qui sont situées en zone côtière.
Au standard, François-Louis à Chaville. Bonsoir, François-Louis.
Bonsoir. Voici ma réflexion. Il existe un grand nombre de climato-sceptiques dont je fais partie. Ils n'ont pas nécessairement raison, bien entendu. Et on peut même penser que le GIEC pourrait avoir raison. Ceci étant, dans cette hypothèse, et quelle que soit l'hypothèse, on pourrait, par principe de précaution, et c'est ce qu'on fait, essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la préservation de la planète. Mais il me semble qu'il n'y a aucune chance que nous bougions dans ce sens-là, car de même qu'un adolescent de 18 ans qui sait de façon beaucoup plus sûre que le tabac tue par cancer, peut tuer par cancer, ne va pas s'arrêter de fumer dans cet argument, ou c'est très rare qu'il le fasse. Eh bien là, il s'agit, sur une hypothèse dont beaucoup de gens pensent qu'elle n'est pas si démontrée que ça, sur une telle hypothèse, il s'agit pour des arrière-petits-enfants de limiter un certain nombre d'effets. C'est une attitude à long terme que l'humanité, dont l'humanité n'a jamais fait preuve. Donc pour moi, il n'y a aucune chance qu'aucune action ne découle de tout ce bruit. Voilà ma remarque.
Laurent Bopp, un des auteurs du rapport du GIEC.
Oui, alors en opposant climato-sceptique et GIEC, je pense qu'on se trompe sur ce qu'est vraiment le GIEC et sur la façon dont fonctionne le GIEC. On a l'impression que c'est un groupe de chercheurs qui travaillent ensemble et qui font la science qui démontre que le changement climatique est lié à l'activité humaine. Je pense que peut-être on peut revenir quelques instants sur la façon dont fonctionne le GIEC. Ça permet de mieux comprendre ce que c'est que le GIEC. Le GIEC, en fait, ce n'est pas un groupe de chercheurs qui travaillent ensemble. Le GIEC ne fait pas de recherche. Le GIEC est chargé par les gouvernements, par l'ONU, par l'Organisation mondiale de la météorologie, de rassembler, d'évaluer, de résumer toutes les recherches qui sont faites sur le thème du changement climatique.
Oui.
Et donc, dans le rapport qui vient de sortir, c'est pas climato-sceptique ou pas climato-sceptique, il y a 9000 publications publiées, relues par les scientifiques qui ont été analysées, compilées, résumées dans ce rapport-là. Donc l'idée du GIEC, c'est pas de faire de la recherche qui démontrerait le lien entre changement climatique et activité humaine, c'est de résumer, d'évaluer toute la recherche qui est faite sur le changement climatique.
Oui, mais d'accord, mais dans ce rapport, vous annoncez quand même des catastrophes peut-être probables à l'horizon 2100. Et là, François lui dit, oh, finalement, c'est très très loin et ça n'a aucune chance d'impressionner aujourd'hui.
Alors, on n'annonce pas des catastrophes probables, on annonce...
C'est du conditionnel.
Voilà, c'est du conditionnel. Encore une fois, et peut-être qu'il y a du coup un message en partie d'espoir dans ce qui est présenté par le GIEC. Il y a plusieurs scénarios. Et il y a des scénarios qui permettent de limiter le réchauffement à 2 degrés.
Ouais.
Et donc ces scénarios sont aujourd'hui encore possibles. Il y a plusieurs trajectoires d'émission du CO2, et ce que montrent les travaux du GIEC, ou ce que montrent les travaux qui sont résumés par le GIEC, c'est que le climat est très différent entre une trajectoire où on atteint 4,8 degrés, où on continue à émettre du CO2, et une autre trajectoire où on limite le réchauffement à 2 degrés. Donc il y a encore le choix, et finalement ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Serge Planton, à Toulouse.
Oui, et il y a aussi quand même aussi un constat qui peut être fait au niveau individuel, c'est à propos des événements extrêmes, et là on ne se projette pas nécessairement dans le futur, on perçoit que des événements extrêmes ont pu avoir leur fréquence augmentée au cours des dernières décennies. Alors, les scientifiques sont souvent prudents lorsqu'il s'agit d'attribuer des événements extrêmes, si on parle des vagues de chaleur, là, ça peut être des inondations, ça peut être des tempêtes, de les attribuer aux effets du changement climatique. Et même dans certains cas, on sait qu'on ne peut pas faire cette attribution. Pour autant, quand on a connu par exemple la canicule de 2003, cela marque quand même les esprits, et c'est une bonne manière de se rendre compte ce que veut dire une atmosphère, un climat, qui se réchauffe de plusieurs degrés. Avec le scénario, par exemple, le scénario du pire, qui est le scénario des émissions sur lesquelles actuellement on se situe. Là, on se situe sur la trajectoire du scénario le plus élevé. Ça conduirait à un réchauffement moyen planétaire de 4 degrés en moyenne, effectivement oui. Les 4,8 degrés dont on parlait tout à l'heure. Et surtout, et même on peut le dire à l'échelle de la France, parce qu'on a pu considérer des scénarios qui étaient approchants, cela reviendrait en gros à multiplier la fréquence des canicules au point qu'un été comme 2003, ça deviendrait l'été normal après 2070. Donc, évidemment, on ne va pas y arriver simplement du jour au lendemain, et ça ne devrait arriver que progressivement. Et de ce fait, lorsque la prochaine vague de chaleur se produira, on redécouvrira à nouveau la question est ce que cela signifie concrètement qu'un changement climatique qui, certes, arrive lentement, c'est une tendance simplement sur le long terme, mais qui peut se traduire par l'aggravation de certains événements extrêmes qu'on vit, qu'on peut vivre, pas au quotidien, mais en tout cas à échelle humaine.
Donc des événements météo extrêmes, on risque d'en vivre beaucoup dans les prochaines décennies si on ne bouge pas, si on ne réduit pas ce réchauffement climatique.
Alors, c'est-à-dire qu'il faut évidemment nuancer, parce que ouais. Les événements extrêmes, ils s'en produiraient même sans changement climatique.
Ouais.
Simplement, ce que l'on considère, c'est qu'il va y avoir une aggravation de l'intensité, par exemple, de la durée et de la fréquence des canicules.
Ouais.
C'est extrêmement probable. Ensuite, on sait aussi que le réchauffement climatique s'accompagne d'une intensification des événements de précipitations intenses, là, dans les régions plutôt où on connaît déjà des précipitations relativement abondantes, donc ce sera nos latitudes, les hautes latitudes de l'Europe, par exemple, ou certaines régions tropicales humides. Donc, dans ces régions-là, on sait que les précipitations intenses seront plus intenses, probablement, avec le réchauffement climatique. Et plus les émissions seront élevées, et plus, évidemment, cette intensification des événements sera marquée.
Didier est en Normandie, il est avec nous en direct. Bonsoir Didier, merci de nous avoir appelés.
Merci monsieur de prendre mon appel. Le traditionnel, félicitations pour vos émissions.
Merci.
Franchement, sincèrement. Donc ma question, on m'a demandé d'être synthétique, je vais l'être. Le Groenland, en l'an 1000... a été colonisé par les Scandinaves. On y a fait pousser du blé. On y a établi des colonies. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de cheminée d'usine, il n'y avait pas d'extraction de pétrole, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et pourtant, le Groenland a subi un réchauffement.
Oui.
Qui s'est, par la suite, tassé.
Mmh.
Aujourd'hui, à nouveau, le Groenland est grosso modo un glacier. Alors j'aurais voulu savoir, c'est ma question, ce qu'en pensent vos intervenants. Comment ça se fait que le Groenland ait subi une période de réchauffement à l'époque où l'activité humaine ne pouvait pas être mise en cause dans le réchauffement de la Terre? Merci, monsieur.
Laurent Bob, sur cette histoire du Groenland.
Alors, peut-être deux éléments de réponse. On dit quand même beaucoup de bêtises, finalement, sur ce Groenland vert, où finalement, il aurait pu être cultivé complètement il y a 1000 ans. Non, ça c'est une image. La calotte polaire qui se trouve sur le Groenland, évidemment qu'elle existait aussi il y a 1000 ans, elle existe dans notre climat depuis plusieurs millions d'années. Celle-là, elle n'a pas disparu, elle n'est pas apparue au cours des 1000 dernières années. Évidemment aussi qu'il y a des fluctuations climatiques, chaud, froid, comme le rappelait Serge Menton tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des forçages naturels ou des facteurs naturels qui font varier le climat. L'activité solaire, des éruptions volcaniques, et au cours des 1000 dernières années, on a eu, dans l'hémisphère nord en particulier, on a beaucoup d'enregistrements de ces variations climatiques. On peut mettre en évidence des périodes chaudes. On parle de l'optimum médiéval, qui était un optimum climatique, donc une période chaude au moment du Moyen-Âge. On a parlé du petit âge glaciaire, vous savez, les tableaux de Bruegel où on voit les canaux hollandais gelés. Il y a eu des périodes plus froides, il y a eu des périodes plus chaudes au cours des 1000 dernières années. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle le changement a lieu, et c'est le fait qu'on a l'impression de sortir de cette variabilité naturelle enregistrée au cours des 1000 dernières années.
Serge Planton, climatologue à Météo France, à Toulouse.
Oui, donc effectivement, donc Laurent Bob vient de le souligner. Et dans le rapport du GIEC, il y a une évocation un petit peu de cette période, puisque après analyse, on se rend compte que la température des 30 dernières années, en fait, est probablement, ça veut dire de chance sur 3, la période de 30 ans la plus chaude depuis 1400 ans. Et ces 1400 ans englobe cette période qu'on a appelée la période de l'optimum médiéval. Et donc, il n'est pas forcément exclu qu'il puisse y avoir eu une période de 30 ans qui soit plus chaude. Dans ce cas-là, évidemment, on ne l'attribuerait pas aux activités humaines, mais à la variabilité climatique naturelle, comme Laurent Bob l'a souligné tout à l'heure.
Courriel de Jérôme, sur le site du Téléphone Sonne, parle-t-on aussi de la démographie mondiale dans le rapport du GIEC, la démographie qui est le principal vecteur de l'augmentation des gaz à effet de serre? Laurent Bob.
Alors je crois qu'il faudra attendre le troisième volume du rapport du GIEC où ces questions seront traitées évidemment plus en détail dans quelques mois.
Alors d'autres questions, c'est Jean-Marie, il est à Paris et il nous a écrit: j'ai entendu parler d'une nouvelle technique pour lutter contre le réchauffement climatique, la dispersion de particules dans la stratosphère. Pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? Est-ce un procédé sérieux et efficace? Qui veut répondre, Laurent Bob?
Alors on peut juste de façon plus générale que ce procédé-là parler de géo-ingénierie. Donc c'est
quoi la
géo-ingénierie? C'est la modification artificielle du climat. Donc ça serait d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique, non pas en réduisant les émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause principale du réchauffement climatique, oui, mais en utilisant d'autres techniques artificielles. Alors on parle de deux grands types de techniques. Il y a des techniques qui viseraient à refroidir artificiellement la Terre, et celle qui est évoquée par l'auditeur en fait partie. On envoie des particules dans la haute stratosphère, comme le ferait une éruption volcanique importante, et ça pourrait peut-être permettre de refroidir le climat de la planète. Et il y a d'autres techniques qui visent directement à prélever du CO2 de l'atmosphère. Alors il y a plein de techniques un peu fantaisistes, mais il y en a certaines qui proposent d'ajouter du fer à l'océan, ça fertiliserait l'océan, les algues se développeraient auprès du CO2. Donc il y a plein de techniques qui sont aujourd'hui évoquées pour peut-être lutter contre le réchauffement climatique, la géo-ingénierie. Les scientifiques sont souvent assez sceptiques parce que ces méthodes ont des conséquences, peut-être néfastes, on ne les maîtrise pas bien, et donc c'est un peu la boîte de Pandore ou l'apprenti sorcier. Donc beaucoup de questions sur ces techniques.
Serge Planton ?
Oui, à propos d'une des solutions donc, qui a été évoquée, injecter des particules dans la haute atmosphère, il commence à y avoir des études scientifiques justement qui mettent en question la possibilité que ça pourrait avoir un impact sur la couche d'ozone, avec les conséquences qu'on pourrait imaginer sur les rayonnements ultraviolets et donc sur la santé humaine. Donc on en est au point où les études scientifiques doivent être menées. Et évidemment, il ne faut pas se presser d'imaginer des solutions, mais plutôt examiner toutes les conséquences et le faire avec l'appui, évidemment, de la recherche scientifique.
Après la parution de ce rapport du GIEC, il nous reste 20 secondes. Laurent Fabius a déclaré, il y a devant nous un précipice. Grande conférence en 2015. Laurent Bopp, on est vraiment au bord du précipice si on ne bouge pas.
Alors c'est une image, on a quelques années, mais je crois qu'il faut arriver à un accord en 2015, évidemment.
Merci à nos invités Laurent Bopp et Serge Planton. C'était le Téléphone Sonne, émission préparée par Marie-Claude Malartic avec l'aide de Thibaut Manchon-Bonneau, à la réalisation Laurent Thomas.